Bonjour à tous, merci d'écouter Brume de Caplan, une émission proposée en direct du lundi au vendredi qui vous divertit de différentes façons. Alors, se replonger dans l'histoire, la nôtre, retrouver des mots et des expressions bien de chez nous, c'est le jeu Qui suis-je ? Ouvert à tous, il est ouvert, il suffit simplement d'être là à 11h10 et la finale le vendredi met en jeu 50 euros, qu'on se le dise. Vous permettre de vous débarrasser des objets qui ne vous servent plus en les donnant ou en les vendant, mais également d'en avoir quelques-uns gratuitement, d'en emprunter, le rendez-vous service, ça marche très bien, c'est chaque matin de 11h30 à 11h45. Les 30 premières minutes de cette émission, c'est un dialogue avec un ou quelques invités, par téléphone quand ils ne sont pas ici ou dans le studio quand ils sont présents. Aujourd'hui, mon invité est écrivain, il est également poète d'origine russe qui vit à Genève, qui a vécu une longue partie de sa vie à Genève, il n'est plus à Genève actuellement. Un parcours fort intéressant, une vie bien remplie. Il a été choisi par le comité de lecture du lycée Émile Le Tournel pour son roman Ochi Chornia. J'ai le plaisir d'avoir ce matin Mikhaïl Ramsayer. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre archipel.
Merci.
Alors, vous êtes arrivé il y a 48 heures à peine. Quelles sont vos premières impressions ?
Sympathique. L'îlot m'a l'air bien petit, mais parfaitement bien habité. En tout cas, les gens sont sympathiques. L'ambiance, le climat est froid, évidemment. Je vis au Venezuela, pour répondre à votre introduction. Mais la différence ne me dérange pas parce que j'aime le froid d'une manière générale. Donc, va bien.
Vous êtes d'origine russe. Vous êtes né à Genève en 1964.
Voilà.
On peut le dire. Mmh. Et vous avez publié votre premier recueil de poèmes à 17 ans. En fait, c'est l'âge qu'ont les élèves qui ont apprécié votre roman et qui vous ont élu.
C'est vrai que c'est une coïncidence un peu étonnante dans le sens où je savais pas du tout comment fonctionnait le prix. C'est une question, on va dire, la logistique m'échappait complètement. Je savais pas comment ça fonctionnait, donc j'ai été au courant seulement quand j'ai été en fait primé. Et évidemment que le livre a pas été écrit pour des adolescents. Et ça m'a été d'autant plus étonnant que, en fait, j'aborde beaucoup de thèmes dans le roman qui sont des thèmes, je pense, qui peuvent toucher des gens d'un âge tel que ceux qui ont voté, quoi, parce qu'en fait c'est la vie actuelle, les problèmes qu'on peut rencontrer avec le numérique, les nouveaux médias, enfin ce genre de choses. Donc c'est une thématique, je pense, qui peut être intéressante pour eux et peut-être qu'ils s'y sont retrouvés un peu, je sais pas.
Est-ce que vous avez des enfants à peu près du même âge? Je sais que vous avez des enfants.
Des enfants plus grands et plus petits.
Plus grands et plus petits.
Ouais.
Parfait. Alors vous avez exercé plusieurs métiers. Vous avez été chauffeur de taxi. Professeur de tennis.
Bien informé.
Voilà, colporteur, graphiste, rédacteur. Avant de partir à l'aventure autour du monde, vous avez enseigné notamment le français à Katmandou. Et puis l'écriture et la rédaction sont des atouts chez vous, puisque vous êtes journaliste, secrétaire de rédaction dans la presse quotidienne pendant 10 ans, également chroniqueur, directeur et rédacteur en chef du mensuel franco-russe L'Ours Blanc.
C'est ça.
Et vous avez représenté la Suisse en 1996. À la Biennale internationale de poésie de Liège. Et puis un petit peu plus récemment, enfin il y a une dizaine d'années quand même, vous êtes allé au Festival international des poètes de Moscou.
Tout à fait.
Alors, vous êtes ce qu'on peut appeler une pointure dans le monde de l'écriture, dites-moi.
Non, certainement pas, non. Non, non, je fais partie de l'autobus, comme on dit. C'est-à-dire les personnes qui écrivent et puis bon, qui essayent péniblement de continuer à publier, quoi, parce que c'est évidemment très difficile.
Ochi Chornia, qu'est-ce que ça veut dire très précisément ?
Ça veut dire les yeux noirs, c'est une traduction du russe. Le choix du titre en russe, c'est un choix de l'éditeur en fait, parce que les yeux noirs étant un titre relativement, on va dire, utilisé, il y a déjà d'autres ouvrages du même titre, l'éditeur trouvait que c'était pas plus mal de changer le titre et m'a demandé une proposition. J'ai dit éventuellement russe, c'est une idée que j'avais eue parce que elle fait référence, la formule, à une chanson célèbre qui s'appelle Ochi Chornia aussi, que beaucoup de gens connaissent, peut-être pas les plus jeunes, mais enfin, c'est quand même une chanson, si vous entendez les premières mesures, que vous reconnaîtrez. Et donc, il a dit banco, c'est une bonne idée, pourquoi pas, tout le monde va comprendre, et puis sinon, c'est pas très grave, on met la traduction à l'intérieur. Et puis voilà. Donc c'est Les yeux noirs.
C'est un livre qui est sorti en 2010.
Voilà.
Et alors, réaction à sa sortie ?
Très bien.
Oui.
Il est sorti, donc, il était publié au Québec. à Montréal, et puis a priori ça a l'air de bien marcher.
C'est votre 12e roman ?
Pas roman, 12e titre, oui. Je ne sais même pas, je n'ai pas compté, mais non, pas 12e roman.
Alors, vous vous adressez au lecteur, paraît-il, comme un pote autour d'une table, une écriture simple et familière qui interpelle, parce qu'au-delà de l'intrigue, c'est de votre vie dont vous parlez aussi, hein. C'est un petit peu votre vie que vous racontez à travers ce roman.
Oui, en partie.
L'histoire de journaliste, là.
Oui, un petit peu. C'est quand on crée des personnages, c'est toujours un peu soi-même, évidemment, mais en même temps, c'est un conglomérat de soit de personnes qu'on a rencontrées, soit de choses qui sont totalement créées, inventées. Bien entendu que l'intrigue elle-même est inventée, bien qu'elle parte d'un fait divers authentique. Et puis ensuite, eh ben, le personnage vit par lui-même la plupart du temps. Je veux dire, il se construit à mesure qu'on écrit. Les dialogues arrivent souvent seuls. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis. Certains autres écrivains peut-être le vivent différemment. Et puis voilà, c'est un peu de ma vie, bien entendu. Le métier du journalisme que je connais. Bon, en même temps, là, ça se passe à Paris. J'ai vécu à Paris, mais j'ai pas pratiqué le journalisme à Paris. Donc, on mélange d'autres impressions, d'autres caractères, d'autres personnages. Et puis voilà.
Est-ce que c'est un livre qui a été facile à écrire ?
Facile, oui. C'est pas un livre difficile, mais disons que c'était relativement long quand même. Disons que j'aime bien peaufiner. La crédibilité d'un ouvrage me semble important, dans le sens où beaucoup de livres sont relativement peu crédibles sur certains détails, et bien que la plupart des lecteurs soit s'en fichent, soit s'en rendent pas compte, moi ça me heurte toujours. Donc je prends un exemple tout simple, j'ai situé à un moment donné un passage qui dure à peine deux lignes sur une station de Moscou, de Pétersbourg, station de métro, et donc j'ai vérifié juste comme ça par acquis de conscience sur Internet, et je me suis rendu compte qu'entre-temps elle était fermée. Bon, temporairement, une année et demie à peine pour des rénovations, mais enfin, je me suis dit, je peux pas décemment faire entrer mon personnage dans une station qui aujourd'hui est fermée, même si personne va s'en rendre compte. Donc, ça prend beaucoup de temps dans le sens de la vérification. Il faut toujours faire attention des bon, redondances, les choses qu'on a déjà dites, parce que souvent, on a un propos, par exemple, qu'on met dans la bouche d'un personnage et, manque de bol, on a déjà dit, peut-être même dans un autre personnage. Et puis bon, il faut donc faire un gros travail de révision.
C'est un livre qui permet de voyager aussi, hein.
Oui, c'est un peu une espèce de road movie. Moi, j'appelle ça un road bouquin parce que c'est plutôt un... Mais enfin, il y avait cette idée au départ. Je voulais qu'il y ait un trajet qui se produise et puis qu'on traverse un petit peu comme ça.
Alors, on voyage où ? On est en France, en Europe,
voilà,
et puis en Russie.
Aussi, ouais. Ça part de Paris. Donc, l'intrigue se déroule à Paris en partie. Et puis, les personnages sont amenés à se déplacer. Donc, on tourne un petit peu en France. Et puis, ensuite de ça... On traverse l'Europe pour aller en Russie en voiture, donc voilà. Puis on se retrouve à mi-chemin de la Sibérie.
Alors, Les Yeux Noirs, édition Coup de tête 2010, nous allons parler évidemment du parcours de l'auteur ce matin. Et puis nous aurons également l'occasion de discuter avec une jeune élève qui a donc élu l'invité de ce matin. Nous parlerons également avec Madame André Olano, présidente de l'association du prix littéraire à Saint-Pierre-et-Miquelon. On vous rejoint dans un instant dans cette émission.
Dessine-moi un mouton rapide ou lent, un mouton petit ou grand, là où vivent les êtres bons. S'il te plaît, apprivoise-moi, que je sois enfant ou roi, tout le monde est différent. Et chacun est important. Vois-tu la différence dans ce qui est perceptible? Notre cœur cherche une alliance. L'essentiel est invisible. S'il te plaît, apprivoise-moi. Que je sois enfant ou roi, tout le monde est différent et chacun est important. Demande à ton ami chanter. S'il te plaît, apprivoise-moi, que je sois enfant ou roi. Tout le monde est différent et chacun est important. Apprivoise-moi, que je sois enfant ou roi. Tout le monde est différent et chacun est important.
Savez-vous que cette semaine, l'archipel reçoit un écrivain? Mikhaïl Ramsayer est en effet chez nous pour le plaisir des élèves qui l'ont élu. Le récit de l'ailleurs anime en effet des passionnés, des jeunes élèves du lycée Émile Le Tournel. Ils ont d'ailleurs créé un comité de lecture et cette année, leur choix s'est arrêté sur ce roman. Ce roman dont nous allons parler ce matin en compagnie d'une des élèves, Judith Détchévéry. Bonjour.
Bonjour.
Il me semble t'avoir déjà vu l'an passé.
C'est pas
si tu étais oui. venue également parler de l'auteur que vous aviez élu.
Ah oui.
Voilà. C'est... Alors, ce comité de lecture, il continue d'exister. Ça nous fait très, très plaisir. Et donc, tu es la représentante ce matin, la seule de disponible, manifestement.
Ah oui, parce que bon, les autres s'excusent, ils avaient des cours importants, donc c'était pas évident. Donc, je me suis déléguée pour y aller, quoi.
Voilà, tu seras la chargée de communication ce matin.
Voilà.
Et puis, à tes côtés, quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie également beaucoup, c'est Madame André Olano. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente d'une association qui a été créée en quelle année, en fait,
André? Qui a été créée il y a 3 ans. Hein. Mikhaïl est notre 3e auteur invité. Et vous voulez que je vous parle de l'association un peu maintenant?
Vous me parlez de ce que vous voulez.
Bon, c'est parfait. Disons qu'il faut, il ne faut pas confondre l'association qui organise donc le planning, qui prend les contacts nécessaires pour que l'événement ait lieu. Et puis le jury qui est composé d'élèves volontaires et qui est entièrement, autonome. En ce sens que quand les livres ont été lus, le jury délibère à huis clos. Donc voilà, c'est leur choix à partir des livres qui a été proposé. Je voulais mettre l'accent sur cette différence. Je voudrais profiter de l'émission d'aujourd'hui pour remercier. Alors d'abord remercier tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il s'agisse d'une aide matérielle, qu'il s'agisse de ceux qui ont mis un savoir-faire, un don, un art au service de l'association. Qu'il s'agisse de ceux qui nous accueillent d'une manière ou d'une autre. Je voudrais remercier aussi tous les membres de l'association, plus particulièrement cette année où la présidente a été défaillante pour raison de santé. Je crois que personne ne sera vexé si je dis un grand merci en particulier à Valentine, qui s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour faire avancer les choses, qui a vraiment coordonné le projet. Et enfin, je voudrais remercier le jury, c'est-à-dire les élèves, qui, rappelons-le, sont volontaires. Et j'espère qu'ils en ont tiré beaucoup de plaisir, fait connaissance avec non pas la lecture en tant que préparation à un examen, mais donc la lecture pour le plaisir. Je voudrais remercier bien sûr notre auteur d'avoir fait un si long voyage pour venir passer une semaine avec nous. Et j'espère que cette semaine demeurera inoubliable pour lui comme pour nous.
Vous êtes arrivé il y a 48 heures.
C'est ça.
Voilà. Donc vous avez déjà rencontré des personnes?
Oui, j'ai déjà rencontré pas mal de gens. Je me suis couché assez tard. J'ai bien mangé,
bien bu. Donc le séjour commence bien.
Ça commence très bien.
Et alors avec les élèves, vous en avez rencontré quelques-uns?
Une seulement, celle qui est à cette table
pour
l'instant.
Ah d'accord, elle
est venue me chercher à l'aéroport. avec un comité d'accueil. Et puis non, sinon j'ai pas encore eu la joie de les voir. Je suis très content de cet aspect des choses. D'ailleurs, je l'avais déjà dit à votre collègue Joël Pupier, que en fait ce soit un jury non seulement populaire, on va dire ça comme ça, mais de jeunes en plus, parce que c'est vrai que d'abord je pense que c'est un public plus exigeant d'une manière générale. À cet âge-là, on a des goûts déjà plus partagé. Je pense qu'après, on met un peu d'eau dans son vin et puis on arrive à accepter des choses que peut-être on n'aime pas forcément complètement, etc. Mais à cet âge-là, non, on n'aime pas. Bon, il y a un côté comme ça qui est séduisant, de se dire que ça peut intéresser donc un public plus jeune. Et puis l'autre aspect, c'est que ce soit un prix décerné par des gens qui, comme l'a dit Madame Molano, sont volontaires d'une part, et puis qui ont lu le livre, qui l'ont apprécié ou non, qui ont voté pour ou contre, mais enfin, ça émane pas d'une espèce de jury professionnel dont on sait pas d'où il vient et qui le compose vraiment et comment les arcanes sombres derrière ont fait que tel livre a été primé.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de spontanéité hein, chez les jeunes. Hein. Je pense que Judith, qui est la représentante ce matin, va pas dire le contraire. Parmi les critiques que je suis allée retrouver, il y a donc cette écriture simple et familière. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été écrit, Judith ? Toi, qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans le roman de l'écrivain qui est avec nous ce matin ?
Moi, ce qui m'a plu le plus dans le livre, c'est l'histoire en soi et le principe du voyage, en fait. Le voyage est présent partout dans le livre et c'est un côté qui m'a vraiment plu. L'écriture aussi, c'est vrai qu'elle était plutôt familière, plutôt comme quand on parle dans la vie de tous les jours. Et puis ça donne une proximité par rapport au livre qu'on n'a pas si c'est un livre écrit dans un langage hyper soutenu, hyper... on se reconnaît dans notre façon de parler par rapport à la façon d'écrire le livre, en fait.
Et à travers l'histoire que raconte l'auteur, est-ce qu'il y a des questions qui te sont venues ? Des
non.
Interrogations ?
Ben, vraiment, pourquoi le choix d'écrire peut-être le livre de manière à... Est-ce que la façon d'écrire le livre d'un niveau relativement familier a été vraiment volontaire pour qu'on puisse s'identifier au personnage du livre, en fait ? Je me suis vraiment demandé ça, si...
Oui, et c'est d'ailleurs, je reviens à votre première question sur la difficulté ou non de l'écriture. C'est un des aspects qui était le plus difficile, de rendre les choses familières. Il est beaucoup plus simple d'écrire de manière totalement, on va dire, classique, hein, même si, bon, il faut avoir un minimum de style, évidemment, mais enfin, ça reste beaucoup plus simple à gérer qu'une écriture familière, le simple étant souvent plus compliqué, comme on le sait. Dans le sens où il faut à la fois dépouiller l'écriture pour qu'elle soit comme un langage parlé. En même temps, on peut pas totalement écrire comme on parle parce que ça devient très difficile à lire d'abord et à comprendre. C'est comme si vous lisez une phrase en phonétique. Il faut la faire résonner un peu en l'air 2-3 fois avant de vraiment saisir de quoi il retourne. Donc là, c'est la même chose dans les dialogues, dans tout ça. Par exemple, enlever les doubles négations pour faire plus simple. On dit pas je ne vais pas là-bas, on dit je vais pas là-bas. On enlève le ne. Bon, alors évidemment, si on les enlève tous, ce que j'avais fait à un certain moment dans l'écriture du livre, je me suis rendu compte que ça devenait vraiment difficile à lire d'une part, et puis certaines fois, ça résonnait vraiment très mal. Donc, il faut en rajouter quelques-uns de temps en temps de ces doubles négations ou d'autres effets de style, tout en appuyant pas trop, sinon on perd le côté dynamique. C'est un vrai travail de peaufinage. J'ai dû 2-3 fois reprendre depuis le départ, alors que j'avais déjà plusieurs dizaines de chapitres faits, parce que j'étais pas content, soit c'était devenu trop parler justement, soit c'était j'avais trop gommé, ça redevenait trop classique. Bon, j'ai pris aussi le parti d'écrire au présent, c'est entièrement au présent d'indicatif, donc il n'y a pas de passé comme on a l'habitude de faire dans un roman traditionnel. Il était là-bas, il a fait ça, etc. Donc je l'ai fait au présent, justement, pour que ce soit plus dynamique, ce qui pose des problèmes aussi à la narration, parce qu'évidemment que quand un personnage se déplace, par exemple, si on est au présent, il faut meubler l'ellipse, quoi. Si il est là, à cet endroit, et puis que tout d'un coup, on le voudrait dans un autre endroit, comment est-ce qu'on fait ? On est obligé de passer chaque seconde, il prend sa voiture, il va au feu rouge, il fait ça, pour le mettre dans un autre endroit. Alors qu'au passé, ça pose pas ce problème, on peut faire switcher directement le personnage. Donc ça pose d'autres types de soucis, effectivement, c'est un travail supplémentaire. Mais c'était volontaire pour répondre à ta question.
D'accord.
Alors pour l'histoire, on peut dire, Judith, que le héros est journaliste, comme l'est Monsieur Ramsayer.
Oui, le héros est journaliste, oui, donc c'est vrai que c'est... comme le disait avant M. Ramsayer, quand on écrit un livre, on y a toujours une part de soi dans le personnage. Et puis ben là, elle est vraiment ressortie par le fait que le personnage principal soit journaliste.
Donc il a une vie tout à fait ordinaire jusqu'au jour où ?
Jusqu'au jour où il retrouve chez lui le cadavre d'une femme morte. Et il ignore complètement l'identité de cette femme et il se rend compte que en fait, cette femme habitait chez lui, cachée dans un recoin de son placard depuis un moment déjà. Parce qu'elle était sans domicile fixe, donc elle habitait là avec sa petite fille. Et la petite fille, elle est toujours en vie et il se démène pour retrouver d'où vient la petite fille.
Voilà, et là, il y a un très très beau voyage qui commence.
Je précise que donc le départ de l'intrigue est une histoire vraie, un fait divers authentique. Je le précise parce que même mon correcteur, le correcteur de mon éditeur, m'a dit « c'est pas crédible, ça tient pas la route, personne peut vivre dans un placard, machin ». Et en fait, c'est totalement faux parce que c'est justement la seule chose vraie du livre. Enfin, de manière générale. J'avais lu donc une fois un fait divers qui m'est resté. D'une personne, c'était une femme, sauf erreur, qui vivait dans un appartement justement en totalement clandestin pendant que le type qui travaillait partait le matin. La personne avait la clé, on ne sait pas trop comment. Je crois me souvenir que c'est au Japon, j'en suis pas sûr. D'habitude, je garde un peu ce type de référence qui m'intéresse et là, comme par hasard, je ne l'ai pas retrouvé. Et en cherchant via Google, c'était impossible. Donc j'ai dû, d'un certain côté, ça m'ennuyait parce qu'il y avait des petits détails qui m'auraient bien arrangé, mais d'un autre côté, j'ai dû totalement réinventer, donc c'était pas plus mal. Mais donc l'intrigue est véridique. Au départ, il y a vraiment des gens qui peuvent vivre comme ça dans un recoin d'appartement qui reste très silencieux, qui dorment. Parce que dans l'article, on disait en l'occurrence que c'était un phénomène qui avait tendance à grandir dans certaines très grandes mégapoles comme ça, où des gens sont vraiment sans domicile, sans peut-être travail ou revenu, et qui ont trouvé ce moyen de squatter chez des gens à leur insu pendant qu'ils sont pas là en fait. Et de faire très attention évidemment à pas déplacer des objets, à pas que ça se voie. Dans l'article que j'avais lu, je crois que la personne était là depuis 3 ou 6 mois, je sais pas. Donc, puis un jour par hasard, ils l'ont découvert. Et le poteau rose a été découvert comme ça, quoi.
Alors un séjour qui évidemment vous permettra de rencontrer vos lecteurs, permettra de rencontrer le public de Saint-Pierre et Miquelon, des animations, donc des rencontres. On va parler de tout ça dans un instant et on va vous rappeler les endroits et les heures évidemment où vous pourrez rencontrer Mikhaïl Ramsayer.
Ses théories, il compose, décompose, son œuvre est un parapluie. Sans barrière, il ose pousser les convenances. Conscient de ses névroses, il joue la transparence. Monsieur est un avant-gardiste, un libertin, un fantaisiste. Il voit du noir entre mes seins. Monsieur s'égare, mais l'air de rien. Devant les stars un peu mondains, il fait de l'art. Lorsque le concept rejoint l'idée, que le génie, que l'étincelle explose en arc-en-ciel sur un monochrome. Monsieur est un avant-gardiste, un libertin, un fantaisiste. Il voit du noir entre mes seins. Monsieur s'égare, mais l'air de rien. Devant les stars un peu mondains, il fait de l'art contemporain. Au bras de ses théories, il compose, décompose, son œuvre est un parapluie. Sans barrière, il ose pousser les convenances. Conscient de ses névroses, il joue la transparence. Au néant symbolique, il passe ses performances. Et dans la symétrique, il aboie son errance. La recherche est dense, au creux des installations. Créateur, il s'élance à la provocation. Monsieur est un avant-gardiste, un libertin, un fantaisiste. Il voit du noir entre mes seins. Monsieur s'égare, mais l'air de rien. Devant les stars un peu mondains, il fait de l'art contemporain. Monsieur est un avant-gardiste, un libertin, un fantaisiste. Il voit du noir entre mes seins. Monsieur s'égare, devant les stars, il fait de l'art.
Alors, ce début de semaine est placé sous le signe de l'écriture. Pour cela, nous avons eu l'heureuse idée de recevoir Mikhaïl Ramsayer, un séjour qui commence avec une journée ensoleillée, présage de moments conviviaux en perspective. L'auteur du livre, Ochi Chornia, s'est déplacé jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un grand honneur et un plaisir partagé que d'avoir été l'élu de quelques élèves du lycée de Saint-Pierre-et-Miquelon. On l'a dit, hein, vous aviez sensiblement le même âge que les élèves du comité de lecture du lycée quand vous avez publié le recueil de poèmes. Alors, que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui et de leur intérêt pour les poèmes, la lecture et l'écriture ?
C'est difficile de savoir. Non, une chose est frappante, c'est que je crois que les jeunes, d'une manière générale, quelles que soient les époques, sont sensibles à la poésie ou à l'écriture de manière générale. Maintenant, la poésie est un mot, est un terme qui fait peur en général. En français, en tous les cas, c'est pas le cas dans toutes les cultures. Mais quand on dit poésie, par exemple récital de poésie, j'ai animé des ateliers d'écriture où on aidait les gens à sortir un petit peu comme ça de la poésie. Et c'est la peur panique, quoi. On a peur de s'emmerder, on a peur que ce soit nul, on a peur de je sais pas quoi. Mais enfin, c'est quelque chose de très difficile. L'autre jour, hier ou avant-hier, je sais plus, dans un journal, j'ai lu une interview qui disait que c'était en France, impossible de dire qu'on était poète avant d'être mort. C'est-à-dire, une fois qu'on est mort, on peut éventuellement dire qu'on a été poète, Jacques Brel était poète, etc. Mais du temps du vivant, ça se fait pas. C'est quelque chose qui fait peur, qui effraie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Russie, où la poésie est vraiment dans la vie quotidienne des gens. C'est vrai que je pense que les jeunes y sont sensibles. Il y a des formes de poésie nouvelles qui explosent un petit peu partout. La poésie de rue, la déclamation. Et puis, on peut retrouver de la poésie partout. Je crois que c'était le credo de Léo Ferré, de gens comme ça qui étaient capables de faire de la poésie en utilisant un langage totalement vulgaire. On peut, c'est une question de métaphore, d'idées, d'images. Donc les jeunes, aujourd'hui, comme avant, ils y sont sensibles, je pense. Mais il faut un peu les aider à moins avoir peur de ça.
Alors, il y a beaucoup de projets pour vous, puisque vous venez une semaine, donc ça va passer très très vite. À l'occasion de votre venue, il y a plusieurs animations de prévues. Judith, tu peux nous en parler ce matin ?
Donc oui, toute la semaine est extrêmement chargée. Demain, notamment, il y a l'émission Premier jour du timbre sur le prix littéraire au bureau philatélique de 14h30 à 18h30. Ensuite, à 20h30, il y a une soirée tout publique au CDI du lycée sur le roman donc Ochi Chornia et le thème des Cosaques. Il y a aussi le mardi matin, avec les premières du lycée, les classes de première du lycée, une rencontre au CDI. Le mercredi, donc de 11h à midi, rencontre avec les classes de seconde au CDI. Jeudi matin, on retrouvera M. Ramsayer dans les matinales avec Joël. Il y a aussi, pour les élèves et les enseignants de Miquelon, la journée de vendredi, donc qui se passera à Miquelon. Il y aura une visite au collège et on fera visiter aussi Miquelon-Langlade. Et le vendredi soir à 21h, il y a une soirée tout public à la bibliothèque municipale sur le roman Ochi Chornia, et cette fois-ci le thème des pirates. Sans oublier le samedi matin de 10h à midi, la séance de dédicace du roman primaire à la bibliothèque.
Tout à fait, puisque mardi 5 avril, c'est demain, de 14h30 à 18h30. Donc avec vous, la bibliothèque deviendra le bureau temporaire de Philatélie pour l'émission Premier jour donc du timbre réalisée pour l'occasion par Madame Anne Repman. Oui, un dernier mot, André ?
Oui, je voudrais quand même souligner, c'est la grande nouveauté de cette année, l'émission donc d'un timbre à propos de cet événement qu'est la venue d'un auteur chaque année pour le prix littéraire.
Donc de bons moments en perspective.
Je me réjouis.
Qui vous attendent.
Voilà.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu ce matin. Évidemment, nos différentes éditions vont vous suivre. Des équipes télé et radio vont vous suivre. Comme ça, on pourra voir un petit peu tout ce que vous faites durant cette semaine. Merci de nous avoir accordé le premier entretien ce matin.
D'accord,
ça fait
merci.
Un plaisir. Et puis, merci également à Madame Olano.
Je vous en prie.
Merci également à Judith.
Je vous en prie.
Voilà. À très, très bientôt. Demain matin, j'aurai le plaisir de recevoir Isabelle Ruel-Lafargue pour parler de différents rendez-vous proposés du côté de la Butte. Et puis sachez que Isabelle et Thierry ont fait des déplacements du côté du Canada, et il y a encore quelques petites expositions et de salons de prévus donc en compagnie de ces deux artistes.